Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Bien informé permet de mieux se protéger. Cette formule semble relever de l'évidence lorsqu'elle s'applique à notre santé. Et pourtant, au cours des mois et des semaines écoulées, peut-être n'avons-nous jamais entendu et parfois cru tant de fausses croyances concernant une maladie. Pandémie, virus émergent qui a fait irruption dans nos vies et qui a profondément modifié notre quotidien à l'échelle de la planète. Le Covid-19 est devenu le sujet numéro un dans les médias, des discussions en famille, entre amis, chacun d'entre nous étant concernés, potentiellement menacés et individuellement impliqués dans la prévention. Des épidémies, l'humanité en avait connu d'autres, mais pas dans un contexte de globalisation, de diffusion d'informations en temps réel, d'appropriation de la communication via les réseaux sociaux. Résultat, épidémie d'idées reçues que l'Organisation mondiale de la santé, elle-même prise pour cible, a regroupé sous le terme le néologisme d'infodémie. L'OMS qui publie et réactualise régulièrement sur sa page « En finir avec les idées reçues », des démentis argumentés pour alerter sur les ingrédients miraculeux, le piment, l'ail, le citron, les faux vecteurs d'infection, les mouches et les moustiques, les produits d'entretien détournés de leur usage ou encore l'apnée, le climat, l'électroménager, oui, un grippin, ça peut marcher selon certaines rumeurs, c'est bien sûr faux, inventaire qui pourrait prêter à sourire s'il n'était aussi dangereux et s'il ne révélait pas aussi notre désarroi face à l'inconnu et la défiance à l'encontre de ceux qui sont censés nous protéger. Bien informé pour mieux se protéger, mais pour cela il faut du temps, du recul, des moyens, également accepter le doute, l'absence de réponse, bien informé, démentir des informations potentiellement dangereuses. Comprendre aussi pourquoi tant de désinformations avec vous, professeur Pierre-Marie Girard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue, directeur du réseau international des instituts Pasteur. En ligne également, professeur Jean-Noël Fabiani, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Vous êtes chirurgien cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, professeur à l'université Paris-Descartes et auteur du livre « Le chirurgien et le marabout » aux éditions Plon. Et tout à l'heure, on va retrouver le docteur Anne-Marie Moulin, médecin philosophe, spécialiste des maladies tropicales, directrice de recherche émérite au CNRS. Et puis en fin d'émission, notre séance d'activité physique anti-sédentarité en temps réel, le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo, sera avec nous comme tous les lundis, avec pour équipement nécessaire aujourd'hui un petit tapis de sol et de bonnes chaussures de sport.
Priorité santé sur RFI.
Et avant de vous donner la parole, messieurs professeurs donc au pluriel, on va retrouver Igor Strauss. Igor, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Journaliste à RFI, les auditeurs de Priorité Santé vous connaissent bien, notamment pour vos excellents reportages. Alors si on vous retrouve aujourd'hui, c'est parce que vous travaillez depuis plusieurs semaines sur un projet. Il s'appelle Corona Vérif, des capsules vidéo qui seront diffusées sur les réseaux sociaux, qu'ils sont déjà pour démentir un certain nombre d'idées reçues sur le Covid-19. Alors une première question, Igor, comment ces fake news que vous démentez dans ces petites vidéos, comment ces fake news sont-elles diffusées ?
Eh bien, par les réseaux sociaux, évidemment, par le bouche à oreille. Je pense que nous sommes très nombreux au début de la pandémie à avoir reçu sur Facebook ou sur WhatsApp tous ces soi-disant bons conseils. Il faut boire des boissons chaudes, un thé, une infusion, car le virus ne résiste pas à la chaleur. Alors, il faut boire du citron pressé, car l'acidité tue le virus. Des messages qui viennent soi-disant de sources, de personnes bien placées, censées détenir certaines informations. On a souvent lu « J'ai un ami dont le beau-frère est médecin qui m'a dit que ». Donc les réseaux sociaux restent le moyen de diffusion le plus fréquent de ces fausses informations. Mais il faut également ajouter les scientifiques avec des discours parfois totalement contradictoires. Et là je pense notamment aux propos du professeur Montagnier ou nos hommes politiques qui relaient certaines informations ou contre-vérités avec la résonance que cela peut avoir. Nous avons tous en mémoire les déclarations du président Trump, notamment sur l'eau de Javel. Et enfin, je dirais qu'il y a une troisième catégorie, c'est nous, les médias, quand nous donnons la parole à de soi-disant experts et que, sans qu'il n'y ait au fait de contradicteurs en face ou quand ils sont juste mollement contredits, nous participons à la propagation de ces fausses informations. N'oublions pas qu'il est très facile de sortir une phrase de son contexte, ce qui permet ensuite à certains d'affirmer sur tel média, j'ai entendu ça, alors que c'est faux.
Alors, des rumeurs, des fake news, est-ce qu'elles ont évolué avec le temps, avec aussi le temps de l'épidémie ?
Oui, cela évolue au gré des connaissances que l'on acquiert sur la maladie. Comme au début, ces connaissances étaient limitées, cela a favorisé évidemment la propagation de ces fausses rumeurs. Alors, les remèdes de grand-mère, ou que l'on ressort à chaque nouvelle pathologie, les boissons chaudes, l'ail, le citron, les plantes. Et puis, très vite, on s'est interrogé sur l'origine du virus. Créé en laboratoire, ou alors descendant du VIH, ou alors échappé d'un laboratoire. Et puis alors, un point important, Caroline, pour nos auditeurs sur le continent, comme le Covid-19 a tardé à arriver en Afrique, cela a donné lieu à tout un tas de fausses informations. Donc un climat chaud protège du coronavirus, on en a fait une vidéo, ou encore la peau noire protège du coronavirus, ou encore...
Tout cela, c'est complètement faux.
Tout est complètement faux, évidemment. Les Africains ne sont pas immunisés naturellement. Tout ceci reste des fake news, vous l'avez bien compris.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des formes de grandes familles, des typologies de ces fake news ?
Oui, alors il y a les fausses informations qui restent sans danger, quoique vous pouvez consommer de l'ail, évidemment, du citron, des boissons chaudes. Cela ne vous protégera absolument pas du virus, mais c'est sans risque. Alors, attention tout de même, et un médecin nous le rappelle dans une vidéo coronavirus qui va être diffusée prochainement, boire des boissons très chaudes ne protège pas du coronavirus, mais si vous vous brûlez la gorge par exemple, cela peut au contraire devenir un facteur favorisant. De même, on rappelle que se laver les mains avec un gel hydroalcoolique est un des gestes barrières essentiels à appliquer. En revanche, il ne faut surtout pas boire ce gel hydroalcoolique. Et puis, dans une autre catégorie, il y a ce qu'on pourrait dire la recherche d'un bouc émissaire. Alors, il y a une forte stigmatisation de la communauté asiatique en général, pas seulement des Chinois, une stigmatisation des Blancs également, c'est la maladie apportée par les Blancs, c'est ce qu'on disait également du temps d'Ebola. Ou alors, la recherche et la stigmatisation du patient zéro. La vie d'une Américaine a été bouleversée car on l'a accusée à tort d'avoir introduit le virus aux États-Unis. Et puis, il y a toutes les fausses informations des conspirationnistes, des amateurs de théories du complot. Alors, le Covid-19 aurait été créé en laboratoire pour décimer volontairement une partie de la population, c'est ce que certains pensent, ou alors le coronavirus se propagerait par la 5G, vous savez, ce réseau, et cela va permettre aux États de nous contrôler grâce à la puce RFID, on lit toutes sortes de propos conspirationnistes. Et puis pour finir, Caroline, comme je sais que nos auditeurs ont de l'humour, je vais vous livrer une fake news qui ne rentre dans aucune catégorie. Un de nos auditeurs a lu que deux médecins chinois de Wuhan qui ont contracté le Covid-19 sont devenus noirs suite à la maladie. Voilà le genre de fausses informations qui circulent également sur les réseaux sociaux.
Alors, on ne juge pas, mais on va essayer d'expliquer au cours de cette émission, démentir, informer. Merci beaucoup, Igor Strauss. Coronavirus, nouvelle chronique proposée donc par vous-même et Priorité Santé sur les réseaux sociaux. Professeur Pierre-Marie Girard, professeur Jean-Noël Fabiani, on vous retrouve. On le souligne chaque jour, la portée de la crise actuelle est totalement inédite. Les croyances, la crédibilité, tout ça, c'est au centre de notre préoccupation du jour. Quand on est infectiologue comme vous, professeur Girard, pourquoi de telles fausses informations, c'est risqué, ça comporte un véritable danger de santé publique pour chacun d'entre nous.
La première chose que je dirais, c'est que dans une épidémie, une pandémie, dont l'agent responsable est inconnu, une pandémie avec des cas mortels, comme on l'a dit, il y a des discussions sur la fréquence des formes sévères et en particulier mortelles, mais le poids de la maladie est très lourd, ça laisse un champ complètement ouvert à raconter n'importe quoi à une période où c'est vrai que nos connaissances sont très mauvaises au début. On ne sait quasiment rien sur ce virus. On fait juste des analogies avec d'autres coronavirus qui ont pu émerger avant. Donc on comprend à quel point ça peut être extrêmement délétère et extrêmement attirant aussi pour toutes les personnes qui, par exemple, vous l'avez mentionné tout à l'heure, adhèrent aux théories du complot. C'est un champ qui est ouvert. Et on sait très bien que les gens sont dans une grande anxiété. Toute leur vie a l'air d'être transformée actuellement. C'est pas uniquement médical, c'est social. C'est leur vie qui est en cause. Et évidemment, ils font feu de tout bois, je dirais.
Justement, il y a ce double côté du Covid-19. On a vu chaque jour le nombre de décès, d'abord en Chine, puis en Europe, aux États-Unis, potentiellement très dangereuses. Mais en même temps, l'immense majorité des malades guéris. Donc derrière ces guérisons, on peut dire de façon un petit peu triviale, professeur Pierre-Marie Girard, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi.
Bah oui, c'est exactement cela, comme ça que ça se pose. Alors le danger de que vous évoquiez tout à l'heure, vous me posiez la question, le danger c'est que alors on commence à dire que les gels hydroalcooliques, ça serait bien de les prendre par la bouche, ça va marcher mieux. Enfin voilà, là ça devient des risques de comportement qui sont réels. Alors au-delà de la des informations qui n'ont pas de sens et essayent d'activer, d'alimenter des théories du complot et l'affaire du bouc émissaire. En maladie infectieuse, on a l'habitude de ça. Le bouc émissaire, c'est pas le germe en général, c'est qui a introduit le germe et pour quelle raison le germe s'est développé. Et c'est là que tout le monde, et c'est humain, je dirais. Il faut savoir la véritable raison, la prédestinée, pourquoi le phénomène est arrivé à ce moment-là. Et il faut trouver des coupables.
Et on le souligne bien, il y a ce risque de stigmatisation, des effets potentiellement catastrophiques. En Iran, 210 personnes seraient décédées depuis février en ayant justement avalé, ingéré du méthanol, intoxication, et puis aussi, bien sûr, un risque de relâchement de la prévention quand on se croit protégé par une pseudo-potion magique. Et puis, il y a d'un côté, même si des fois le terrain est un peu glissant entre les deux, ceux qui colportent les fake news et ceux qui colportent les véritables informations. Professeur Jean-Noël Fabiani, au-delà de votre spécialité de la chirurgie cardiovasculaire, vous intéressez depuis longtemps à l'histoire de la médecine. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le trop d'informations qui a favorisé la désinformation ?
Alors, incontestablement, je vais vous prendre quelques exemples du passé. Par exemple, la grippe de Hong Kong. La grippe de Hong Kong, c'est 1968-1969. Il y a beaucoup de gens qui l'ont connue. Personne n'en a parlé. Les journaux n'en parlaient même pas. On n'en s'en souvient absolument pas. Elle a quand même fait 1 million de morts. C'est-à-dire beaucoup plus qu'actuellement le Covid-19. Remontons un petit peu encore pour aller à la fameuse grippe espagnole de 18-19 où volontairement les États n'ont pas informé la population pour ne pas les démobiliser au départ sur l'effort de guerre. Celle-ci a quand même fait 100 millions de morts sur la Terre. Donc, vous voyez que l'information, eh bien, a quelquefois, même si c'est logique d'informer les gens, je le pense profondément, mais elle a aussi des effets pervers, c'est-à-dire qu'on va se mettre à parler et des gens qui surtout, comme on le disait il y a un instant, qui ne sont pas compétents, vont se croire obligés parce que les plateaux sont faits ainsi avec, en particulier, les télévisions et les radios d'information continue. Il faut faire des plateaux, il faut inviter des gens parce qu'il faut remplir, en quelque sorte, son plateau. Et les gens qu'on invite ne sont pas toujours des gens qui ont quelque chose à dire.
En tout cas, il y a certaines informations, particulièrement, on va dire, d'un ton un peu vulgaire, qui prennent. Est-ce qu'on peut comprendre, professeur Fabiani, pourquoi, à telle époque, eh bien, certaines fausses croyances prennent davantage que d'autres ? Qu'est-ce que c'est ce terrain fertile ?
Ah, je dirais que ça a toujours existé. Vous savez, alors, reprenons vraiment le passé du passé, c'est-à-dire la grande épidémie de peste noire de 1348. Eh bien, il fallait là aussi trouver absolument un coupable, comme on l'évoquait il y a un instant. Là, c'était les Juifs. On a absolument tué les Juifs pour parce qu'ils étaient accusés d'apporter la maladie. Les lépreux aussi ont été accusés. Même les nobles ont été accusés à cette époque, si bien qu'ils ont été obligés de se cacher. Donc il faut toujours, dans toutes les époques, quand il y a un phénomène de ce type-là, il faut trouver, parce que ça fait partie naturellement de la pensée humaine, il faut trouver des coupables. Et comme on n'a pas d'autres coupables à se mettre sous la dent que le virus, il faut trouver des responsables. Voilà, je crois que c'est vraiment, hélas, une attitude humaine très, très répandue qui remonte à la nuit des temps.
avec une part d'irrationnel, professeur Fabiani, mais en même temps, d'autres fake news, d'autres rumeurs, elles peuvent avoir un petit fond d'explication. On peut quand même essayer de comprendre d'où elles viennent, bien sûr, non pas pour les justifier, il n'en est absolument pas question, mais essayer de dire, ben, voilà pourquoi on vous a fait croire ça, et voilà pourquoi vous y avez cru.
Ben écoutez, il y a quand même des choses qui sont assez redoutables. Il faut dire que quand un prix Nobel de médecine, comme M. Montagnier, vient vous expliquer qu'il y a une partie du génome de ce virus qui, en fait, est le même que celui du VIH, et que donc ça a été une manipulation génétique qui a fabriqué ce SARS-CoV-2, c'est vrai qu'on est quand même impressionné, qu'on peut l'être, et que quelque part, le poids de celui qui parle et la qualité scientifique du message qu'il donne, même s'il est complètement faux et qu'il s'avère complètement faux, eh bien, a tout de même du poids, et que c'est bien normal qu'un certain nombre de gens en soient tout de même un petit peu interloqués et qui disent, bah oui, et alors si c'était vraiment une manipulation génétique qui avait eu lieu dans un laboratoire qui préparait en fait et qui s'est trompé un vaccin contre le sida, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même alarmant et qui, du fait du poids même de celui qui parle, devient quelque chose d'impressionnant.
Professeur Pierre-Marie Girard, l'infectiologue, quand l'un de vos pairs se met à tenir ce genre d'élucubration, vous, comment est-ce que vous l'expliquez? Vous, comment est-ce que vous réagissez?
Je vais vous dire très franchement, d'abord, on est gêné. On est gêné parce que ce sont des personnes, des chercheurs, en l'occurrence un chercheur qui a eu un rôle important à une époque. Et donc on est gêné parce qu'il y a aussi une sorte de collégialité, de respect, de respect des collègues. Mais là, vous avez pu remarquer que ça a été très vite. En plus, le professeur Montagnier était à l'Institut Pasteur et immédiatement, il y a eu une réponse très formelle. Quand je dis formelle, ça veut dire très détaillée et appuyée sur des faits qui pouvaient, même si c'est un peu technique, on peut parfaitement les comprendre. Et vous remarquerez que finalement, ça c'est comme il y a une réponse très rapide, très très construite la réponse, quasiment on n'en parle plus, ça n'a pas duré longtemps. Et le problème des fameuses fake news, je sais que c'est pas très français, c'est que il faut se mobiliser. On peut pas se mobiliser contre toutes les fake news, c'est pas possible. On peut pas tout dénoncer. On est là aussi pour, on n'est pas là pour passer notre vie à dénoncer des croyances complètement sans rationnel, sans justification. Mais c'est aussi, ça fait aussi partie de notre devoir et ça fait partie aussi de nos de notre temps et c'est très ça consomme aussi beaucoup de temps, ça perturbe aussi la recherche. Et juste pour revenir sur un petit point tout à l'heure, les gens confondent toujours les hypothèses et les faits démontrés. Une hypothèse devient une réalité et ça c'est le rôle des scientifiques d'expliquer justement la différence entre une hypothèse et une réalité. Et le terrain est fertile car justement actuellement et dès le début de la pandémie, on ne formule que des hypothèses. On passe son temps à chercher au laboratoire et pour essayer de tester des hypothèses. On teste des médicaments. Vous savez qu'il y a un médicament qui a fait beaucoup parler de lui encore récemment parce qu'il y a une équipe qui n'a pas voulu, c'est l'équipe de Marseille, qui n'a pas voulu aller jusqu'au bout de l'évaluation.
Et l'hydroxychloroquine avec le professeur Raoult.
Voilà. Juste sur une hypothèse, tout d'un coup, ça devenait un médicament. Et voilà, et c'est dramatique parce que ça a complètement freiné la recherche, du coup. Ça a freiné la recherche et ça a complètement déstabilisé les patients qui, encore une fois, n'ont pas besoin d'être déstabilisés dans cette situation qui est dramatique, qu'elle soit sous le plan santé ou sous le plan social.
L'importance d'argumenter, on voit bien le fossé entre l'exigence, on va dire scientifique, et l'exigence de l'opinion publique, d'une certaine forme aussi d'exigence médiatique qui voudrait des solutions tout de suite claires. Et maintenant, est-ce que Pierre-Marie Girard, professeur, vous êtes aussi à la tête du réseau des instituts Pasteur à travers le monde, donc une vision internationale. Est-ce que vous diriez qu'il y a aussi une forme de géographie, de cartographie des fake news? On croit en certains lieux certaines choses et pas dans d'autres?
Écoutez, je crois que c'est vraiment universel. On est tous, j'allais dire, c'est pas beau, tous des éponges. On est en situation difficile, on est toujours prêt à entendre quelque chose qui puisse être une réponse que les scientifiques n'ont pas encore donnée. C'est toutes les fake news qui tournent autour de tout ce qui est thérapeutique, comportement. Puisque les chercheurs ne savent pas, moi je sais, et je vais vous expliquer. Et comment voulez-vous qu'on ne soit pas très sensible à ce discours, puisque enfin, il y a quelqu'un, une voix, peu importe d'où elle vient, peu importe où elle vient, on ne se préoccupe pas de l'endroit d'où elle vient, on se dit juste, c'est une réponse, alors que les scientifiques n'ont pas assez de réponses, ou, et pire encore, et c'est là où il faut qu'on fasse attention, des données contradictoires entre scientifiques. Alors, la science, c'est du débat, c'est normal. C'est normal qu'on débatte entre nous, c'est normal qu'on débatte très fort, mais c'est argument contre argument, c'est pas juste pour donner une idée parce qu'on est sur une trace scientifique à laquelle on croit individuellement, mais les preuves des faits, les preuves de l'expérimentation est absolument essentielle.
Et aussi la dimension du facteur temps, on veut les choses vite, oui. Alors que la maladie, elle, n'agit pas comme ça, de façon aussi immédiate. Professeur Jean-Noël Fabiani, ce qu'on a vu aussi avec cette épidémie particulièrement, ce sont des publications spécialisées, lues et interprétées par des non-spécialistes.
Ben oui, ce que l'on a vu, si vous voulez, c'est comme on l'évoquait il y a un instant, le débat normal entre les spécialistes qui, bien entendu, ne sont pas d'accord entre eux. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la situation. Seulement, malheureusement, là, on l'a vu en direct sur les chaînes d'info, ce qui est, bien entendu, très anxiogène pour tous les spectateurs qui ne comprennent pas très bien pourquoi on est pour M. Raoult ou contre M. Raoult, qui ne comprennent pas très bien ce que c'est qu'une étude randomisée en double aveugle ou bien une étude au cas par cas, et ils ne comprennent pas, et c'est normal. Et là, on a assisté, et c'est dramatique, à ce débat qui s'est passé en direct sur les chaînes d'info. Et c'est là, véritablement, qui est la nouveauté, en quelque sorte, dans notre histoire de la médecine, dans notre histoire même de la communication, c'est ce nouveau phénomène qui s'est, d'une part, les réseaux sociaux, et d'autre part aussi les chaînes d'information.
Angoisse inconnue, beaucoup de fausses nouvelles avec des médias différents, une longue histoire en tout cas, l'histoire de ces épidémies. On va le constater tout de suite avec une autre invitée.
Priorité santé sur RFI.
Les épidémies, je le disais, une longue histoire. Docteur Anne-Marie Moulin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, philosophe, spécialiste des maladies tropicales, directrice de recherche émérite au CNRS. Docteur Moulin, lors des précédentes grandes épidémies qui sont abattues sur l'humanité, sur certaines populations, est-ce que vous diriez qu'on a assisté à des manifestations similaires ? Bien sûr, on n'avait pas les mêmes médias, mais est-ce qu'il y a toujours eu ces fameuses rumeurs ?
Écoutez, cela me frappe en écoutant mes collègues. La peur des épidémies déclenche des productions fantasmagoriques. Il y a un véritable délire dans les populations. La pièce de Sophocle sur la peste de Thèbes, ça nous remonte dans la haute antiquité, 5e siècle avant Jésus-Christ, on voit que les gens imaginent, voient des choses en l'air, etc. Il y a tout un ensemble d'hallucinations. C'est un peu l'équivalent des productions fantastiques, voire du délire, qui se manifeste parfois dans les infox. Et je voudrais faire une remarque, c'est que les infox ne sont pas pure invention. Et je vais parler tout à l'heure d'hallucinations, mais dans les infox d'aujourd'hui qui circulent à grande vitesse dans le monde entier, ils se mêlent d'authentiques données vérifiables. Par exemple, la fuite d'un virus, du méchant virus du laboratoire de Wuhan. Pour le moment, ça n'est absolument pas vérifié. Mais dans le passé, il y a eu des événements un peu analogues. Par exemple, on sait maintenant qu'il y a eu des fuites du virus du SARS à Pékin et dans d'autres laboratoires. Donc, quelque part, ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'il faut, avec attention, détricoter ces fameuses rumeurs, il y a des éléments qui sont vrais. Et ce sont ces éléments autour desquels s'inscrit une fabulation. Et cette fabulation, elle a aussi ses raisons. Je pense que, là encore, ce n'est pas plus irrationnel.
Il ne faut pas démentir en bloc, il faut chercher l'origine pour retirer les pièces élément par élément.
Absolument, il faut faire un démontage. Parce que c'est prendre les gens pour des imbéciles que de penser que c'est aussi simple. Et, mais non, tout ce que vous racontez, c'est des balivernes. Non, au
justement,
contraire,
pas question de trancher entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Mais vous dites que c'est structurel aux épidémies, docteur Anne-Marie Moulin. Mais est-ce que là, bien sûr, avec la communication, les technologies de la communication, ça a été amplifié, le numérique, globalisation, là, on peut dire que ça a été exponentiel.
Ben, ça a été exponentiel. Il y a là, vous savez, l'ivresse de l'individu qui découvre que quand il se met sur les réseaux, il peut à lui tout seul mobiliser des milliers de personnes, par exemple pour une pétition. Et quelque part, c'est aussi une revanche. Moi, je suis très frappée par le phénomène qui montre que ces infox, elles sont un peu la revanche des faibles, des petits, vis-à-vis des autorités politiques, vis-à-vis de ceux qui savent, les clercs qui monopolisent l'information. La revanche parfois de ceux qui n'ont pas été à l'école, mais qui ne sont pas si bêtes que ça et qui auraient pu être meilleurs que bien de ceux qui sont arrivés. Et je pense qu'il y a une défiance vis-à-vis de la science, dans la mesure où la science est l'ami du puissant. Même si elle s'exprime, et c'est là toute la difficulté, dans un langage accessible. Il y a, par exemple, l'Institut Pasteur a fait beaucoup d'efforts pour communiquer de façon, disons, claire, simple, pour démentir l'idée d'un virus qui aurait été fabriqué ou relargué en Chine. Mais le fait même que le statut de la personne qui parle, quelque part, joue contre elle, puisque par définition, c'est quelqu'un qui appartient au monde de ceux qui savent. Et je pense qu'il y a une caricature qui est assez amusante. Il y a quelqu'un qui demande « Mais pourquoi tu crois à cette info ?» Et la réponse est « Mais parce que précisément, c'est exactement ce que je pense. » Donc il y a quelque part une conformité de ces rumeurs avec ce qu'attend ou espère ou souhaite le public.
Alors,
c'est pour ça que c'est très difficile de les contrer.
Un problème d'accès aux connaissances, accès à la compréhension. Professeur Fabiani, on peut dire aussi qu'il faut faire justement pour contrer ces informations un énorme travail de pédagogie, de vulgarisation pour rendre la connaissance accessible au plus grand nombre.
Oui, absolument, mais là, il faut choisir les bonnes personnes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont compétents en virologie, ce que je ne suis pas, ou dans tout ce domaine-là. Et écouter des gens qui n'ont pas de compétences particulières, étaler en quelque sorte leur ignorance devant tout le monde, c'est ça qui est quand même très ennuyeux. Et malheureusement, le monde est ainsi fait, hein, et que celui à qui on donne un micro se croit toujours obligé de dire quelque chose. Mais en ce qui me concerne, par exemple, pour aller dans le sens de ce que je viens de vous dire, je ne vous parlerai pas ni des virus, ni des épidémies, car ce n'est, sauf celle de l'histoire, mais de celle-ci, je ne vous en parlerai pas, parce que je ne suis pas compétent pour le faire.
Mais c'est pas pour ça qu'on vous a invité de toute façon, docteur Anne-Marie Moulin. On peut dire aussi que ces derniers temps, ce qu'on a vu, c'est que finalement, c'est le discours le plus percutant qui l'emporte, pas forcément ni le plus légitime, ni le plus crédible.
Ce n'est pas, oui, mais c'est celui qui correspond à une attente. Par exemple, l'attente d'une thérapeutique miracle, d'une thérapeutique disponible immédiatement. Mais on en a vu plusieurs exemples à propos au moment du sida. Il y a eu, vous savez, un vent de folie autour de la cyclosporine, autour des corticoïdes, où l'opinion a été bouleversée avec des conférences de presse auxquelles se sont prêtés les journalistes, etc. Donc le désir est très fort d'une solution maintenant. Et par conséquent, quand cette attente est comblée par une annonce, il y a une adhésion qui se fait facilement. Moi, je pense que de toute façon, il faut faire un travail en pas seulement d'information. Je crois que quelque part, c'est plus grave que ça. Il y a un véritable travail en amont qui est à faire sur le sentiment d'abandon et d'exclusion d'une partie importante de la population.
Mmh. Ces choses qu'elles ont envie de croire, c'est parce qu'il y a un manque, il y a quelque chose à combler au niveau de l'information. Ça veut dire quoi? Une pédagogie de l'information scientifique, ça veut dire parler de santé à l'école, ça veut dire parler de santé pas simplement lorsque l'on va voir son médecin?
Ça veut dire aussi qu'il se rétablisse un lien de confiance avec la médecine. Il a été un petit peu amélioré par l'idée que finalement les professionnels de santé étaient dignes de leur vocation. Mais je pense que ces dernières années, il y avait progressivement un mouvement de défiance, pas seulement à l'égard de la science, mais même à l'égard de la médecine et des médecins.
Et aujourd'hui, quand vous voyez justement toutes ces fake news avec l'effet qu'elles peuvent avoir, là on a une ambition de traiter le problème quand on parle de pédagogie sur le long terme, mais si on dit ici, maintenant, demain, on a dit détricoter l'origine, le fondement de cette fausse information, mais qu'est-ce qu'on peut faire également, docteur Moulin, pour être efficace?
Je pense qu'il y a aussi une action en se rendant compte que quelque part les populations, soit des groupes à l'intérieur d'un pays, soit des populations tout entières, je pense à l'Afrique, se considèrent comme délaissés, malmenés, Il y a un renversement qui fait que Ebola n'intéressait pas grand monde, mais parce que ça ne touchait pas l'Europe, et tout d'un coup, quelque part, il y a une affirmation, une fierté, un désir que la science parte d'Afrique. Par exemple, la naturalisation de Raoult, qui devient un Sénégalais parce qu'il est né à Dakar. On voit bien, ça traduit un désir légitime de fierté nationale et de fierté de la science, quitte à adopter un peu rapidement des traitements comme par exemple l'artémisinine proposée par le président malgache, donc très haut dans la hiérarchie.
Merci beaucoup, merci beaucoup docteur Anne-Marie Moulin. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS.
RFI.
On citait ces précédentes grandes épidémies, VIH-Sida d'abord et presque en même temps Ebola plus tard avec l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Pierre-Marie Girard, professeur, est-ce que vous avez vu des phénomènes qu'on pourrait rapprocher à ce qu'on voit aujourd'hui ou on est vraiment sur une autre échelle ?
Dans l'épidémie de Sida, ça a été mentionné par Anne-Marie Moulin tout à l'heure, il y a eu, dans toute l'époque, pendant l'époque où on avait vraiment pas de débouchés thérapeutiques de fond, c'est-à-dire on traitait les infections, qu'on appelle les infections opportunistes, les complications, mais on était complètement démunis. Et c'est là qu'il y a eu, sur des hypothèses, des préconisations, c'est allé très haut, puisque ça a été mentionné tout à l'heure, mais on peut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que même des ministres de la Santé français ont pris un argumentaire, ont fait des conférences de presse grand public à propos de deux personnes qui, soi-disant, avaient été très améliorées par la cyclosporine. Donc, et évidemment qu'il y a aussi beaucoup de fausses informations qui circulent, mais moins on est munis, nous les médecins, on a des forces de proposition efficaces, et plus le champ est libre, bien sûr, aux fake news. Et le travail de... Je voudrais quand même juste dire que on est quand même dans une époque où on parle beaucoup des patients acteurs de leur santé, et c'est vraiment une notion absolument essentielle. Et il faut surtout pas que cette épidémie de fausses informations arrive à la conclusion que finalement c'est trop d'informations, et donc on va faire moins d'informations et on va se recroqueviller, et les savants ou les sachants vont garder l'information pour eux. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire.
Et c'est exactement l'inverse qu'on a vu justement avec le VIH, où il y a eu une appropriation de la connaissance et de la prise en charge par les patients. Les soignants n'ont pas le monopole de la santé.
Absolument. Donc, c'est expliqué. On dit tester. Oui, il faut tester. Il faut expliquer, toujours expliquer. Il faut aussi qu'il y ait une éthique de la communication de la part des sachants, que ça peut être les médecins, ça peut être les chercheurs, pour faire simple, aussi les chercheurs en sciences sociales, parce que c'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait ce partage de l'information. Donc il faut pas, moi je dirais pas qu'il y a trop de médias, mais il faut aussi que les médias jouent aussi leur rôle, donc les acteurs de la communication que je viens de mentionner, et également... bon, il y a un certain nombre de médias, dont des grands médias publics, qui ont une vigilance très forte. Et moi, régulièrement, j'ai des appels de certains médias qui me disent « Écoutez, voilà, on a appris ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc, la vérification de l'information, c'est aussi, maintenant, ça doit faire partir aussi de l'éthique des personnes qui sont les relais du transfert d'informations auprès des populations.
On aborde la dernière partie de notre échange. On a montré du doigt de façon tout à fait juste les médias, les médecins. Donc, c'est vrai, on en a pour notre grade, professeur Jean-Noël Fabiani. J'aimerais aussi qu'on parle quand même des responsables politiques, parce que depuis le début de la crise, on les a entendus dire des choses, parfois leur contraire. On ne recitera pas à nouveau Donald Trump et son eau de Javel. Promouvoir des remèdes sans preuve scientifique. Et puis aussi, en matière de prévention, affirmer un jour que les masques sont superflus pour le grand public. Et puis, deux mois plus tard, décréter leur obligation dans les transports publics. Alors on peut dire, s'il y a défiance à la science, il y a aussi défiance au pluriel.
Alors il y a de quoi en effet être tout à fait défiant, mais regardez ce qui s'est passé au cours des dernières années. Un ministre qui était Madame Bachelot avait fait des provisions de masques pour une épidémie de grippe aviaire qui finalement n'a pas été aussi grave qu'on l'avait redouté. Mais ses successeurs n'ont eu que de cesse que de libérer ce stock, de l'utiliser, de ne pas le reconstituer. Mmh. Et vous savez, c'est comme qu'on crie au loup quelque part, au loup, et puis le jour, le loup est là, et on n'a plus rien. et on n'avait plus les masques. Alors, là où j'en veux beaucoup à certains médecins, c'est qu'ils ont trouvé des arguments scientifiques pour dire que les masques ne servaient à rien. Moi, quand je tiens sur la figure pendant 40 ans, je peux vous dire que les masques servent à quelque chose. Et que, bien entendu...
que chirurgien, vous êtes un pro du masque, hein?
Bah oui, je sais quand même que ça sert à quelque chose, un masque. Donc, c'était ridicule, ce message, de dire que ça servait à rien, que les gens ne savaient pas utiliser un masque. Ils sont pas plus idiots que d'autres, les gens de la rue. Ils savent utiliser un masque. Et donc, maintenant, en effet, il y a un changement d'attitude qui fait qu'on va demander à tout le monde de porter un masque. C'est un changement de position. Mais les politiques, quelque part, ils se sont mis à la remorque des scientifiques, d'un comité scientifique. Ils en ont pris beaucoup. Maintenant, ils en laissent beaucoup aussi. Mais c'est logique, c'est aux politiques de prendre les décisions et de faire le poids des choses entre l'avis des scientifiques, des sachants, comme on dit, et puis aussi les nécessités qui sont celles de la conduite d'un État. Bon, c'est tout à fait normal ce qui se passe quelque part actuellement et que ce soit les politiques qui reprennent la main. Heureusement qu'ils la reprennent.
Ils la reprennent, mais il y aura aussi un grand combat à mener, c'est au cas où, et tout le monde l'espère, qu'il y ait un vaccin qui soit trouvé. Parce que cette défiance, on l'a vu au cours des dernières années, elle a porté aussi sur la vaccination, professeur Pierre-Marie Girard, avec l'impact négatif que l'on sait de cette désinformation. Par exemple, quand on a vu le retour des épidémies de rougeole, y compris en Europe, y compris aux États-Unis l'année dernière.
Ah oui, absolument. Et la France, on n'est pas très fiers de la place...
De ces antivax, oui.
Ce qu'on appelle, moi j'aime bien l'expression maintenant, c'est l'hésitation vaccinale. Je trouve que ça c'est une bonne manière de présenter les choses, parce qu'il y a en fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convaincus de l'intérêt individuel du, j'allais dire du masque, excusez-moi, l'intérêt individuel
du vaccin.
Et ce en quoi ils n'ont pas complètement tort, parce qu'il y a un intérêt essentiellement collectif de la vaccination. Et hésitation, ça veut dire que je trouve ça très bien, parce que les hésitants, on peut leur faire changer d'avis.
On peut le réattirer vers la vaccination.
Exactement. Et toute la difficulté, c'est justement comment on arrive à faire évoluer cette hésitation vers une vaccination. Là, on va avoir une situation où c'est le vaccin qu'on est en train d'envisager, qu'on est en train d'espérer, avec plus de 150 travaux de recherche là-dessus, où on verra bien que ça va être un enjeu extraordinairement complexe d'une vaccination généralisée au monde entier, et avec tous les impératifs de logistique, de financement du vaccin, et aussi de critères qui permettra de retenir ce vaccin, qui ne sera peut-être pas efficace à 100%, mais collectivement, il aura un impact majeur pour contrôler l'épidémie.
Donc, et ça, c'est le sujet d'une autre émission, mais en même temps, vous m'aidez à conclure avec le professeur Jean-Noël Fabiani. On a parlé de confiance, de défiance. Cette confiance, je sais que vous défendez bien cela et on le comprend, c'est d'abord entre un soignant et un patient, parce que être médecin, c'est d'abord une relation singulière, même si aujourd'hui, on est vraiment dans une lutte collective.
Alors, tout à fait. Il ne faut pas perdre de vue qu'on en a parlé au cours de l'émission, mais que les gens gardent quand même une grande confiance en leur médecin personnel et que dans cette épidémie, si on a pu discuter des médecins, les médecins qui parlaient, des médecins qui controversaient entre eux, on n'a pas discuté les médecins qui soignaient. Et les médecins qui soignaient, tout le monde a été derrière eux. Et au contraire, il y a eu une grande confiance qui est née au cours de cette épidémie dans le fait que les gens dans les hôpitaux, ils ont poussé les murs et qu'ils ont soigné. Et finalement, qu'est-ce qu'est un médecin? Un médecin, ben, il est formaté pour soigner. Il n'est pas formaté pour parler tellement, il est formaté pour soigner. Et là, on a fait la preuve de l'efficacité de la médecine française.
Et ce n'est pas celui qu'on regarde par le biais de la télévision, c'est bien celui qui vous regarde les yeux dans les yeux ou en ce moment avec une visière pour se protéger. En tout cas, c'est nos médecins qu'on remercie, comme nos soignants, nos infirmières. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Professeur Pierre-Marie Girard, infectiologue, directeur du réseau des Instituts Pasteur, et à vous, professeur Jean-Noël Fabiani, chirurgien cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et si on a pu convaincre au moins certains d'entre vous, c'est déjà ça de gagner. C'est le moment de retrouver notre séance anti-sédentarité dans Priorité Santé. C'est avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Vous nous aidez à bouger, à rester en forme. Nouvelle séance Alors aujourd'hui, Jean-Marc, première question, le thème de cette séance, on va travailler sur quoi ?
On va travailler par un premier exercice sur les mollets et les cuisses, en travaillant un petit peu le cardio. Et puis le deuxième exercice, on va travailler les abdominaux et les obliques plus particulièrement.
Alors pour faire ces exercices, on a besoin de quoi côté matériel ?
Alors très simple, pour travailler les cuisses, en fait, aucun matériel, des bonnes chaussures et un sol non glissant. Et pour les abdos, il faudra préparer un tapis de sol et puis une bouteille d'eau remplie à 1 litre, ça sera très bien.
Alors on va commencer par prendre du rebond hein, avec ses sauts latéraux. Expliquez-nous, position de départ et ce que l'on va faire.
Alors le protocole est très simple. En fait, on va enchaîner des répétitions avec des impacts brefs. On va tout simplement faire un saut latéral et se réceptionner latéralement, tout doucement sur nos pieds. Si véritablement on a mal au genou, eh bien on peut faire simplement un pas de côté et on va fléchir les genoux, puis remonter et faire un pas dans le sens opposé. Donc autrement dit, on fait un saut à droite, on fléchit, on remonte, on fait un saut à gauche, on fléchit et on remonte, on fait un saut à droite.
Des petits bonds sur le côté.
Des petits bonds sur le côté.
Allez, c'est parti, docteur Sen, vous nous donnez le tempo, le rythme. Vous y allez, vous commencez à compter. On vous suit.
Allez, c'est parti. Un saut à droite. 1, 2, puis on saute à gauche. 1, 2, on se baisse et on saute à droite. 1, 2, puis à gauche. 1, 2, allez, à droite, on fait des sauts. 1, 2, puis à gauche, on se baisse. 1, 2, puis à droite, et on souffle bien quand on saute. 1, 2, puis à gauche. 1, 2, à nouveau à droite, on se baisse. 1, 2, on saute à gauche en soufflant. 1, 2, et on inspire quand on descend. Puis à droite. 1, 2, et encore à gauche. 1, 2, puis à droite, 1, 2, et à gauche, on vient de terminer la première session.
Alors, première session pour les kangourous en devenir, vous allez nous infliger une deuxième séance, j'imagine, comme d'habitude, mais entre les deux, on va respirer, c'est ça ?
Absolument, on peut respirer, boire un tout petit peu d'eau pour être prêt.
On se retrouve, docteur Sen, pour notre deuxième séance de petits sauts latéraux. Eh bien, comme tout à l'heure, on va suivre le même procédé, la même procédure. Vous commencez à décompter, on vous suit, allez-y.
Allez, 1, 2, on saute à droite. Et quand on saute, 1, 2, à gauche, on souffle et on inspire en descendant sur les genoux. 1, 2, on remonte à droite. 1, 2, puis à gauche. Je répète, on souffle en sautant à droite et quand on descend, on inspire. On souffle en sautant à gauche, puis on descend, on inspire. Et hop, à droite, 1, 2, puis à gauche à nouveau, 1, 2, à nouveau à droite, 1, 2, on souffle à gauche, et on descend, 1, 2, on souffle à droite, 1, 2, on souffle et on va à gauche, 1, 2, et voilà, on vient de terminer la deuxième session, bravo.
On a travaillé les genoux, on a travaillé quoi d'autre ?
Eh bien, on a travaillé les genoux, les mollets. On a fait un petit travail cardio-vasculaire aussi, parce que, évidemment, ça essouffle un tout petit peu. On a travaillé un petit peu la souffle, voilà, ce qui est important. Et puis, on a travaillé aussi la souplesse, hein, parce qu'en se baissant à chaque fois, on travaille un petit peu la souplesse, notamment des cuisses. Et également de derrière les fesses.
Alors, on reprend notre souffle. Et pendant qu'on reprend notre souffle, eh bien, vous allez nous expliquer ce qui nous attend pour l'immédiat. Deuxième exercice. Là, on a besoin d'un petit peu de matériel. Donc, ce tapis de sol. Et on va aussi porter, c'est ça ? Expliquez-nous.
Alors, le but. L'exercice s'appelle le twist russe. Alors, le but, c'est de renforcer en fait, sa sangle abdominale et notamment les muscles obliques. Alors, on va être assis comme ça, sur les fesses, sur le tapis de sol, le buste un peu penché en arrière et on aura les pieds qui sont sur le sol. On va utiliser la bouteille d'eau et ensuite les bras tendus et on va faire des rotations, c'est-à-dire qu'on va emmener la bouteille d'eau latéralement au niveau de sa hanche ou de sa cuisse. Et on va comme ça tourner véritablement le buste, tantôt à droite, tantôt à gauche, pour pouvoir justement faire travailler ses obliques. Et donc, on va faire ces mouvements un certain nombre de fois pour renforcer cette sangle abdominale.
Alors, je précise, la bouteille d'eau, elle est remplie d'environ 1 litre, hein, pour qu'il y ait un poids quand même, que ça serve justement à ce renforcement musculaire, c'est ça ?
Absolument.
Alors, sur la position de départ, vous réexpliquez. Donc, on est assis, les pieds au sol, le dos légèrement en arrière, si j'ai bien compris. avec la bouteille dans une main et vous commencez à décompter ?
Voilà, dans les deux mains tendues devant nous. Et on va ensuite faire une rotation droite et gauche. Eh bien, allons-y. C'est parti. Rotation à droite, puis rotation à gauche. On se grandit, c'est très important. Rotation à droite, puis rotation à gauche. À nouveau à droite, puis à gauche. À droite à nouveau, puis à gauche. Le premier groupe a terminé. On continue pour le deuxième. Rotation à droite, puis à gauche. Rotation à droite, puis à gauche, et on souffle à chaque fois qu'on tourne, puis on inspire au milieu, rotation à droite, puis à gauche, on inspire, on souffle, rotation à droite, on inspire, on souffle, rotation à gauche. Voilà pour le deuxième groupe, on inspire, on souffle, rotation à droite, on inspire, on souffle, rotation à gauche, on inspire, on souffle, rotation à droite, on inspire, on souffle, rotation à gauche, on inspire, on souffle, rotation à droite, on inspire, on souffle, rotation à gauche. Bravo pour tout le monde. On vient de terminer la première session.
On a musclé, on a étiré en même temps. Hein.
Absolument, on a fait bouger, redonner de la mobilité à notre colonne. On a renforcé ses obliques. On a même renforcé un peu ses bras. Donc ça, c'est vraiment super. C'est un très bon exercice.
Et quand on récupère, vous nous conseillez quoi ? On s'allonge carrément, on souffle, on lâche tout ?
Alors on peut, bien sûr, on pose la bouteille d'eau, on se relâche, on fait attention. On peut bouger son dos pour être sûr de ne pas avoir de douleur, bien sûr. On boit un tout petit peu d'eau, bien sûr. Entre deux exercices toujours, on se relâche bien et puis ensuite on va reprendre la deuxième session.
On vide pas toute la bouteille d'eau parce que sinon on n'aura plus rien à porter. Bon, ça c'est mon côté un peu taquin. On reprend notre souffle, on se retrouve dans quelques secondes. Nous revoilà, docteur Jean-Marc Sen. On va conclure cette séance de gym avec vous, cette séance d'activité physique. On reprend notre deuxième exercice. Donc, on est assis sur le tapis de sol. C'est bien ça ?
Absolument. Un petit peu penché en arrière, les pieds au sol. Et on fait la rotation à droite en soufflant. On inspire, rotation à gauche. Puis, on inspire, rotation à droite. Puis, on inspire et on souffle, rotation à gauche. On inspire, on souffle, rotation à droite. On inspire, on souffle. Rotation à gauche, on inspire, on souffle, rotation à droite, on inspire, on souffle, rotation à gauche. Voilà pour le premier groupe. On inspire, on souffle, rotation à droite, on inspire, on souffle, rotation à gauche, on inspire, on souffle, rotation à droite, on inspire, on souffle, rotation à gauche. Bravo pour le deuxième groupe. On inspire, on souffle, rotation à droite, hein, on se tient bien droit, hein. Rotation à gauche et on souffle. On inspire, on souffle, rotation à droite. On inspire, on souffle, rotation à gauche. On inspire, on souffle, rotation à droite. On inspire, on souffle, rotation à gauche. Voilà, on a terminé notre séance.
Bon, ben, on vous remercie beaucoup. Hein. Une nouvelle fois, vous ne nous avez pas ménagé, mais ça fait du bien de se dérouiller un petit peu. On va se retrouver bientôt, hein, docteur Jean-Marc Sen.
Absolument, lundi prochain, à nouveau.
Lundi prochain, très bonne semaine à vous. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. À la semaine prochaine.
Excellente semaine à tous.
Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est tout, Sama Kéofeï Lassène, Juliette Brault, aujourd'hui Didier Bleu et Didier Chérouse dans les studios de RFI. Demain, savoir dire non en amour, au travail, en famille, avec ses amis, poser des limites, s'écouter, se faire respecter, ça fait du bien. À demain, d'ici là, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.